La mission finale pour sauver l'humanité a échoué. Mathilda, l'astéroïde de 110 km de diamètre, va percuter la Terre dans exactement 3 semaines. Le compte à rebours pour la fin du monde est donc lancé, mais il se fera bien entendu au son de vos classiques rock préférés.
Juste la fin d'un monde, une émission de radio sur l'écologie politique, avec des entretiens et des extraits de films et de musique.
Il n'arrête pas aussi, et on espère que dans le futur, il y aura plus de solidarité, plus de possibilités de tendre les mains vers ceux qui ont besoin de nous. Merci à vous tous.
Bonjour,
vous êtes journaliste?
Non,
on l'a grandi.
Je vais dans une radio.
Ah d'accord, oui. Ben là, on est en train de manifester contre les migrants que l'Europe, Frontex et tout ça ont laissé se noyer là.
Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Bien, c'est pour protester contre le fait que la semaine dernière, il y ait 133 hommes, femmes, enfants qui ont péri en Méditerranée parce que les secours, pas de notre volonté, sont arrivés trop tard. Voilà, c'est pour protester contre les morts qui continuent à être en très grand nombre en Méditerranée que nous faisons ça. Et donc c'est un rassemblement symbolique et en hommage aux morts de Méditerranée. Bien sûr, mais vas-y.
Également pour manifester contre cette indifférence notable, extraordinaire, des pays européens qui laissent complètement tomber cette histoire-là, qui ne sont absolument pas préoccupés de ces drames qui se jouent au quotidien en Méditerranée centrale. Voilà.
Et du coup, ils venaient d'où ces personnes qui sont envoyées?
Alors, on est situé en Méditerranée centrale, quelque part entre la Libye et la Sicile, et plus proche d'ailleurs des côtes libyennes. Cette embarcation a été notifiée, il a été dit qu'ils étaient en difficulté, mais les secours sont arrivés trop tard. Notre bateau Ocean Viking est arrivé pour constater malheureusement que ce canot était renversé et... des corps flottant tout autour de ce canot. Voilà. Donc notre rassemblement, c'est pour passer cette information et également manifester contre cette indifférence, une nouvelle fois, de l'ensemble des États européens qui manifestent, encore une fois, une indifférence absolue vis-à-vis de ce problème. Voilà.
Un hommage aux victimes.
Pardon, excusez-moi.
Bon, on va rentrer. Soyez
sages. De l'équipe de recherche et de sauvetage à bord de l'Océan Viking le 23 avril 2021, il y a quelques jours. Pendant plus de 24 heures, l'Océan Viking a été à la recherche de vie en mer. Qui étaient à bord de deux embarcations en détresse, très loin l'une de l'autre.
Nous n'avons trouvé aucune trace de la première embarcation et nous ne pouvons qu'espérer qu'elle ait regagné la terre ferme ou atteint un lieu sûr.
Durant une nuit de tempête avec des vagues de 6 mètres, nous avons tenté de retrouver la seconde embarcation.
Je n'ai aucun mal à l'admettre. J'ai passé quelques heures à vomir aux toilettes. La prométhazine, la dimenhydrinate et la moitié des trois dernières années passées en mer n'ont pas suffi.
J'étais épuisée, déshydratée. J'ai eu beaucoup de mal à me recoucher. Et pourtant, j'étais protégée par un navire puissant qui pèse des milliers de tonnes. Des coups secs sur la quille, des objets qui tombent dans les cabines.
Dehors, quelque part dans ces mêmes vagues, un canot pneumatique transportant 120 personnes. Ou 100, ou 130. Nous ne le saurons jamais, car toutes ces personnes sont mortes.
Nous avons repris nos recherches à l'aube.
Accompagnés par trois navires marchands, sans coordination ni aide d'aucun État.
Si un avion s'était écrasé dans la même zone, les marines de la moitié de l'Europe auraient été là.
Mais ce n'étaient que des migrants, destinés au cimetière méditerranéen pour lequel il est inutile de courir. Et de fait, nous sommes restés seuls.
Dans l'après-midi, l'avion envoyé par l'agence Frontex a repéré l'épave du canot pneumatique.
Lorsque nous nous en sommes approchés, il flottait dans une mer de cadavres. Littéralement, il ne restait pas grand-chose de l'embarcation.
Ni des personnes. Il n'en restait même pas les noms. Impuissants, nous avons fait une minute de silence.
afin qu'elle résonne à terre.
Les choses doivent changer.
Les choses doivent changer.
Les gens doivent savoir.
Les gens doivent changer.
Les gens doivent savoir.
Les choses
doivent changer. Les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir.
J'ai une fleur ici.
Hop, merci.
J'ai une fleur, tu veux jeter à la mer ?
Hop, viens. Regarde.
Et à prendre une. Voilà, jeter dans le port.
Depuis qu'on existe, c'est-à-dire que le bateau, le premier bateau, l'Aquarius, est parti en 2000, j'ai oublié maintenant, en février 2016, nous avons sauvé presque 40 000 migrants qui sont montés sur les bateaux. Le nombre de morts se chiffre à plusieurs centaines de milliers. Voilà, ça ralentit maintenant parce qu'il y a moins de passages. Et puis les Libyens et les gardes-côtes libyens qui sont payés et équipés de bateaux par l'Europe récupèrent des migrants quand ils sont en mer et ils les ramènent en Libye où ils recommencent à se faire violer, tabasser, etc., etc.
Vous aviez peur de l'extrême droite ?
Oui, on a déjà été... Dans notre précédent local qui était rue Paradis, nous avons été un jour occupés par les. Comment on les appelle là, par les. Pas l'extrême droite, là, les. Comment ils s'appellent là, les. Enfin, par des groupes d'extrême droite, ouais. Les identitaires, voilà. Et donc, on avait appelé les flics, ils ont été condamnés, etc. Mais ils étaient venus dans notre local. Ils avaient mis des grandes banderoles aux fenêtres, voilà, disant que. On faisait venir la vermine en Europe, enfin des banderoles à eux. Voilà. Donc, et puis on a quand même aussi des copains qui ont été pourchassés, qui ont reçu des menaces. Des fois sur les réseaux sociaux, on se fait insulter, donc on fait quand même gaffe. Donnez ça pour que tu le vous pouvez lire. Hein. Parce que si tu veux, je peux te le lire et puis alors. Donc, témoignage. Attends, je vais enlever peut-être mon masque. Isabelle, tu m'attends pour partir ? Je lis ça. Bon, on reste là. Alors, témoignage d'Alessandro, membre de l'équipe de recherche et de sauvetage à bord de l'Océan Viking, le 23/04/2021. Pendant plus de 24 heures, l'Océan Viking a été à la recherche de vie en mer, des personnes qui étaient à bord de deux embarcations en détresse, très loin l'une de l'autre. Nous n'avons trouvé aucune trace de la première embarcation et nous ne pouvons qu'espérer qu'elle ait regagné la terre ferme ou atteint un lieu sûr. Durant une nuit de tempête avec des vagues de 6 mètres, nous avons tenté de retrouver la seconde embarcation. Je n'ai aucun mal à l'admettre, j'ai passé quelques heures à vomir aux toilettes. La prométhazine et le diméthyldrinate et la moitié des 3 dernières années passées en mer n'ont pas suffi. J'étais épuisée, déshydratée, j'ai eu beaucoup de mal à me recoucher et pourtant j'étais protégée par un navire puissant qui pèse des millions de tonnes. Des coups secs sur la quille et des objets qui tombent dans les cabines. Dehors, quelque part, dans ces mêmes vagues, un canot pneumatique transportant 120 personnes. Ou 100 ou 130, nous ne le saurons jamais car toutes ces personnes sont mortes. Nous avons repris nos recherches à l'aube, accompagnés par 3 navires marchands, sans coordination ni aide d'aucun État. Si un avion s'était écrasé dans la même zone, les marines de la moitié de l'Europe auraient été là. Mais ce n'étaient que des migrants destinés au cimetière méditerranéen, pour lesquels il est inutile de courir, et de fait, nous sommes restés seuls. Dans l'après-midi, l'avion envoyé par l'agence Frontex a repéré l'épave du canot pneumatique. Lorsque nous nous sommes approchés, il flottait dans une mer de cadavres, littéralement. Il ne restait pas grand-chose de l'embarcation, ni des personnes. Il n'en reste même pas les noms. Impuissants,
nous avons fait une minute de silence afin qu'elle résonne à terre. Les choses doivent changer, les gens doivent savoir.
Les clans des rues, les clandestins, les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y'a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a pas de pays, si tu le veux, prends le mien.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Ces sans-papiers
qui vont bientôt partir
vers leur pays les chiens.
On a tout pris, chez eux y'a plus rien.
De rétention, cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins.
J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan,
l'identité d'idée
à la ronde. Et dans ce flot du rien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien.
Dis-moi c'est quand,
dis-moi c'est quand
que tu reviens.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand ils se croient français.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand ils se croient français. Avec tous ces chantiers
et tous ces foulitiers,
ils visent pas que les lapins.
C'est plus du gros sel, c'est des tomahawks. Des missiles solaires ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front. Paris sera beau, on chantera les oiseaux. Paris sera beau, si les oiseaux me nantent. Paris sera beau, car les oiseaux, allez, Paris sera beau.
C'était en 1983.
Les salariés qui risquent donc d'être licenciés, surtout à Poissy, comme je vous le disais à l'instant, sont des immigrés dans leur plus grosse majorité. Pour ces hommes venus du Maroc, de l'Algérie ou d'ailleurs, une telle perspective bien sûr a des accents dramatiques. Martine Gilson et Patrice Destrade ont recueilli le témoignage de l'un d'eux. Il a 40 ans, il est en France depuis 16 ans et il raconte son histoire. Elle commence au Maroc.
Écoutez-le. C'est le patronat qui envoie ses recruteurs d'abord. Et c'est eux qui choisissent. Par exemple, ils vont dans une commune, ils avertissent la commune. Et à ce moment-là, il y a, enfin, par le, si on veut, le garde champêtre, et il annonce la nouvelle qu'il y aura des contrats vers telle destination, et à ce moment-là, les candidats se présentent. Et à ce moment-là, on fait un tri, on fait le choix. Et nous ont, c'est-à-dire, on nous a donné les passeports et tout ça. La carte séjour, à l'époque, ça se donnait à Casablanca, à l'ONI aussi, carte séjour d'un an. Ben, quand je suis arrivé dans la banlieue, ben, c'est-à-dire l'idée que je faisais de la France, de ma jeunesse, quoi, que je vois dans les films, dans tout, dans les journaux, dans les magazines et tout ça, ben, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Je m'attendais pas à ça, à un isolement, à un tas de choses comme ça. C'est ça qui m'a frappé au départ. C'est pas le travail au départ, c'est pas le travail. Quand on est venu à 22 ans, à peine, alors voilà, on ne s'inquiète pas, on ne se préoccupe pas des conditions de travail ni de logement. Hein. Pour nous, la semaine, c'est le travail, le samedi, le dimanche, quand on est jeune, sortir, s'amuser, avoir des contacts. C'est là que j'ai remarqué que c'est pas ce que je pensais. C'est un fait, on est venu d'accord pour travailler. Il y a des gens qui disent, bon, ils sont venus, ils ont gagné de l'argent, ils n'ont qu'à retourner chez eux et tout ça. Bon, on a travaillé, c'est un fait, on a gagné notre vie. D'accord, mais on a contribué aussi au développement et à la richesse de ces pays. Donc, on se sentait concernés aussi, on se sentait un peu comme les Français. Après des années et des années, ben, on arrive à aimer ces pays quand même. Hein. Ça, c'est la vérité. Hein.
C'était Juste la fin d'un monde, une émission sur l'écologie politique. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.